William Marois, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le recteur de l'Académie de Nantes et c'est un anniversaire que vous fêtez cette année en 2016. Ce sont les 30 ans d'existence du baccalauréat professionnel. Il y a actuellement 80 formations disponibles dans les Pays de la Loire. Alors, c'est l'occasion de mettre en avant ce type de formation. Et pourquoi justement vous mettez en avant les bacs pro, notamment sur votre site internet et qui figure sur les unes en fait qui défilent sur votre page d'accueil?
Bah écoutez, c'est d'abord un anniversaire, et un anniversaire, eh bien, c'est l'occasion de rappeler ce qu'est le baccalauréat professionnel, de rappeler son importance dans notre académie, de rappeler les taux de réussite aussi que notre académie a au baccalauréat professionnel. Et puis, c'est d'autant plus important de le rappeler que les jeunes qui sont en troisième vont bientôt faire leur choix d'orientation et de leur dire ben, que le bac pro existe et que c'est depuis 30 ans une voie de la réussite pour nombre de jeunes.
Alors, 30 ans, c'était en 1986. Pourquoi a-t-on créé ce baccalauréat précisément?
Ben écoutez, la création de ce baccalauréat, elle découle d'une mission école-entreprise qui était présidée par Daniel Bloch. Alors Daniel Bloch n'est pas un inconnu dans notre académie puisqu'il y a été recteur en 1997-1998. Et une des conclusions de cette mission était qu'il était important pour accroître le niveau de qualification dans notre pays, de créer un diplôme vu comme un diplôme d'insertion de niveau 4. En gros, un diplôme d'insertion de niveau 4 qui viendrait prendre sa place, et il l'a prise, entre d'un côté le CAP, qui est un diplôme de niveau 5 qui existait depuis le début du XXe siècle, et puis le BTS, diplôme de niveau 3, qui avait été créé en 1959. Donc le bac pro, il venait en quelque sorte combler un vide, répondre à un besoin d'augmentation des qualifications.
Alors évidemment, on trouve moins d'enseignements généraux dans ces filières. Et c'est un moyen pour des jeunes qui n'ont pas forcément, qui ne sont justement pas forcément très scolaires, d'acquérir directement des compétences qu'ils peuvent faire valoir auprès d'employeurs, auprès de différents métiers.
Ben, exactement, en fait, le baccalauréat professionnel, comme toutes les formations du champ professionnel, il s'appuie sur trois grandes caractéristiques, et trois grandes caractéristiques qui peuvent répondre aux besoins de jeunes. La première caractéristique, c'est que quand on est élève en baccalauréat professionnel, on acquiert des savoirs, comme tout jeune dans le système éducatif, mais on acquiert aussi des savoir-faire et des savoir-être. Ensuite, le baccalauréat professionnel, bah, comme toute autre formation de la voie professionnelle, s'appuie sur une pédagogie qui est différente, sur une pédagogie qui donne plus de place à l'initiative des élèves. Et je l'ai bien vu ces derniers jours, puisque je suis allé à la rencontre des élèves et des équipes enseignantes dans nombre d'établissements. Et puis, la troisième grande caractéristique, c'est que le baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, que ce soit des entreprises, des administrations, des associations. Et c'est durant ces périodes qu'en complémentarité avec ce qui se fait sur le lieu de formation, les jeunes peuvent notamment acquérir les savoir-faire et les savoir-être.
Et donc, il faut rappeler que le bac pro peut se faire de différentes façons, c'est-à-dire qu'il peut se faire en voie initiale, et puis en voie en alternance, comme vous l'avez dit, et puis en voie d'apprentissage. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de l'apprentissage, qui est peut-être un moyen justement de former des jeunes pour qu'ils aillent justement vers des métiers qui sont en tension, où il y a de la demande. Voilà, c'est aussi l'occasion d'en parler, parce que c'est très actuel comme sujet en fait.
Alors, il y a quatre possibilités pour passer à un baccalauréat professionnel. La première, c'est effectivement formation initiale sous statut scolaire, et il y a aussi des périodes en entreprise, même
oui,
quand
bien sûr.
Statut
oui,
scolaire.
Oui.
La deuxième, c'est en formation initiale sous statut d'apprenti, et on y reviendra. La troisième, c'est en formation continue, pour des gens qui sont déjà insérés ou qui ont déjà été insérés dans la voie professionnelle. Et la quatrième qu'il ne faut pas oublier, c'est par la validation des acquis de l'expérience. Mmh. Alors en ce qui concerne l'apprentissage, il y a une volonté, je dirais, générale, hein, du président de la République, des présidents de conseils régionaux et de notre président de conseil régional de développer l'apprentissage. Et il faut rappeler que l'éducation nationale est déjà présente, hein, sur le champ de l'apprentissage, notamment au travers des CFA éducation nationale. Et il y a un CFA éducation nationale dans chacun des départements.
Mmh. Alors, bac professionnel, c'est le premier diplôme de formation de France, en fait, hein, au niveau des effectifs, c'est ça?
Ben, c'est-à-dire, alors après, tout dépend de ce qu'on regarde, hein, mais effectivement, dans notre académie, on a 36 000 jeunes qui sont scolarisés dans des formations conduisant d'une manière générale à la voie professionnelle, dont 27 000 qui sont en baccalauréat professionnel.
Alors, on peut rappeler que ce n'est pas seulement pour des jeunes, ça peut être aussi pour des adultes. Ça peut être aussi pour des adultes qui sont en voie de reconversion ou des demandeurs d'emploi.
Ben, ça peut être pour des adultes qui sont en voie de reconversion ou qui sont demandeurs d'emploi. D'ailleurs, je pense que le bac pro peut être un instrument aussi de formation que l'on puisse ramener à l'emploi un certain nombre de chômeurs. Et vous savez qu'il y a un plan national important de lutte contre le chômage qui a été présenté par le président de la République. Et puis, il ne faut pas oublier la voie de la validation des acquis de l'expérience, qui est quelque chose de très original, qui est certainement pas encore assez développé dans notre pays, qui permet d'acquérir un diplôme au travers de la reconnaissance des compétences qui ont été acquises dans l'exercice d'un métier. C'est-à-dire, on ne va plus s'asseoir sur les bancs de l'école. On peut, parce qu'on reconnaît que dans l'exercice de sa profession, on a acquis les compétences du référentiel d'un bac pro, se voir décerner ce diplôme, ce qui permet ensuite de progresser dans sa carrière.
Voilà. Donc, ce focus sur le bac pro, c'est l'occasion d'en parler parce que c'est très actuel et ça permet de former des jeunes et des demandeurs d'emploi et de permettre à des gens de trouver du travail. Donc, c'est aussi l'occasion de dire que ce n'est pas une voie de garage, parce que souvent les bac pro ont une mauvaise image. Quand on ne peut pas aller dans les filières générales ou technologiques, on cherche, enfin on trouve en général ce qu'on veut finalement, parce qu'il y a 80 formations dans les bac pro. Est-ce que là c'est aussi une raison pour laquelle vous mettez en avant le bac pro et vous dites que c'est un moyen, c'est pas une voie de garage,
c'est pas une voie de garage.
Mais il a quand même une mauvaise image quelque part, non?
Ben, si vous voulez, on est dans une société, dans un système éducatif où on a tendance à considérer qu'il n'y a qu'une voie de la réussite, qui est celle de la voie scolaire classique. Et quand quelqu'un ne s'insère pas dans cette voie de la réussite scolaire classique au travers de cours magistraux faits en classe, on a tendance à considérer qu'il est un peu en marge, ce qui est une grave erreur, quoi. Les talents sont divers. On voit bien, on ne peut pas faire fonctionner une société si on n'a pas une diversité de talents. Or, on est dans une société qui a toujours peut-être privilégier un peu plus un certain nombre de métiers par rapport à d'autres, mais notre société ne pourrait pas fonctionner sans sa diversité de talents, sans sa diversité de métiers. Il faudra un jour peut-être qu'au niveau du système éducatif, on reconnaisse qu'il y a aussi une diversité des voies de la réussite et que toutes sont d'égale dignité. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, on a décidé que le bac pro serait, comme les autres baccalauréats, préparé en 3 ans après la classe de 3e.
Oui, on peut rappeler qu'il a été réformé en 2009. Avant, en fait, on passait 4 ans, c'est ça? Il y avait.
C'était plus compliqué. Avant, en 2 ans, à l'issue de la classe de 3e, un jeune préparait un BEP et certains jeunes titulaires du BEP rentraient en bac pro. Mais il y avait en gros 50 à 60% de chute entre le BEP et le bac pro. Mmh. Maintenant, on a un bac qui, comme les autres bacs, se prépare en 3 ans après la classe de 3e, simplement avec des pédagogies différentes qui conviennent mieux à d'autres jeunes, et il n'y a pas de raison que ces autres jeunes qui s'adaptent à cette pédagogie aient une mauvaise image. J'ai vu fonctionner hier dans un établissement une équipe d'enseignants et d'élèves qui travaillaient en très grande autonomie, et c'était fantastique, quoi.
Voilà, on peut dire qu'aussi ça permet d'accéder au BTS, donc on peut continuer après, c'est pas,
Alors,
voilà, on s'arrête pas au diplôme du bac pro.
tout à fait. Alors, par rapport à ce que je vous disais au début, le bac pro a été conçu au départ comme un diplôme d'insertion, mais de plus en plus de jeunes souhaitent acquérir des compétences complémentaires et ils le souhaitent surtout au travers des sections de techniciens supérieurs. Et c'est un souhait que la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche de juillet 2013 a en quelque sorte reconnu, puisque figure dans une loi, et la loi c'est tout de même un acte fort de la République, le fait que les titulaires d'un baccalauréat professionnel doivent être accueillis prioritairement dans les sections de techniciens supérieurs. Donc le bac pro c'est à la fois un diplôme d'insertion pour des jeunes qui, après l'obtention en 3 ans du diplôme, souhaitent aller dans le monde professionnel, mais aussi ça permet de plus en plus à des jeunes, et on le voit bien quand on va dans une classe, qu'on demande aux élèves ce qu'ils veulent faire, une grande majorité souhaite continuer sur une section de technicien supérieur, donc faire une poursuite d'études et acquérir plus de compétences. Puis, vous savez, le bac pro, ça conduit à des vraies voies de la réussite. Enfin, moi, j'ai rencontré des jeunes durant cette semaine qui étaient en SECPA. Hein, c'est-à-dire qui étaient tout de même en difficulté au collège, qui ensuite ont fait un CAP, ont continué en bac pro et sont maintenant en BTS. C'est des vraies voies de la réussite.
Alors, vous étiez sur le
Mais
terrain.
pas conforme à nos canons standards.
Oui, bien sûr. Et vous étiez sur le terrain, on le voit sur le site aussi. Vous avez été rencontrer voilà, des jeunes qui réussissent justement dans ces voies. Et vous dites justement, cette dynamique qui caractérise le bac pro ne peut fonctionner qu'avec la confiance des milieux professionnels. Ainsi, les établissements tissent des liens étroits avec les entreprises, dont certaines sont les futurs employeurs de ces jeunes aux compétences recherchées. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que souvent, on entend des jeunes qui ne trouvent pas d'employeur. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés, alors que ce soit en bac pro, en apprentissage ou dans d'autres formations. Ils ont toujours des difficultés à trouver donc des employeurs qui les prennent en stage, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous me répondez à ma question?
Alors, il y a deux cas. Hein. Généralement, quand ils sont sous statut scolaire, c'est plus facile de trouver une période de stage parce que dans le tissu local, il y a des employeurs qui, effectivement, sont prêts à accueillir pour des périodes de stage. La chose peut être un peu plus compliquée quand on est sous statut d'apprenti, puisque le statut d'apprenti, c'est un statut qui est défini par le Code du travail et qui implique une relation, je dirais, plus proche entre l'employeur et l'entreprise. Mais moi, je perçois dans notre société la volonté unanime de développer l'apprentissage. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que les entreprises, sur le volet de l'apprentissage, effectivement, s'engagent à accueillir des jeunes sous statut d'apprenti, sans renoncer non plus à accueillir les autres en tant que stagiaires.
Voilà, souvent elles ont elles-mêmes les entreprises des revendications d'ordre professionnel, hein, donc c'est des fois difficile pour elles d'accueillir des jeunes. Bon, ça c'est une autre question peut-être.
Mais accueillir un jeune en stage, c'est, je dirais, un acte citoyen, parce qu'on sait que ça demande du temps, que ça demande de l'énergie, que ça demande de l'engagement de personnel de l'entreprise, et on sait que l'entreprise, d'un autre côté, elle doit aussi vivre. C'est-à-dire aussi, elle doit d'abord faire des bons produits et ensuite dégager des bénéfices pour continuer à investir, quoi.
Une dernière question sur justement les débouchés en Pays de la Loire. C'est une région quand même qui est assez riche en fait en termes de production, de services, même si c'est un peu plus localisé vers donc la métropole nantaise, Nantes-Saint-Nazaire. Vous êtes déplacé sur le terrain dans plusieurs endroits, donc en Vendée, également en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette richesse du tissu économique et quels sont les atouts en fait des Pays de la Loire pour ces jeunes qui vont aller vers des bacs pro.
Bah écoutez, je crois qu'on a la chance d'être dans une région qui est dynamique sur le plan économique, même si effectivement c'est pas homogène sur l'ensemble du territoire régional. Je crois que c'est une vraie chance pour les élèves du bac pro, comme tous les élèves que la voie professionnelle. Hein. Ça peut impliquer de la mobilité hein, pour les élèves, mais je crois que la mobilité, c'est aussi quelque chose qui est indispensable dans notre monde d'aujourd'hui, même si ça peut être compliqué à la fois sur le plan personnel, puis au départ, c'est dur de quitter ses racines. Et puis après, ben, je crois que l'emploi, c'est aussi une partie d'engagement personnel du jeune, et je crois que c'est ce qu'il faut dire à chaque jeune, qui soit d'ailleurs dans la voie professionnelle ou pas, c'est que bah, il faut s'engager totalement dans ce qu'on fait, quoi. Et je crois que c'est une des clés aussi de la réussite.
Une dernière question, mais elles me viennent comme ça parce que j'ai envie d'en savoir plus. Justement, alors le rectorat et je dirais les structures de l'éducation nationale sur le territoire de la région, comment fait-elle justement pour aller vers les entreprises, savoir quelle formation mettre en place? Est-ce qu'il y a voilà vraiment une action qui est faite, qui a été faite ou qui est faite qui est renouvelée, je dirais régulièrement, pour savoir justement, pour adapter en fait l'offre de formation et donc la demande pour occuper des emplois.
Ah, l'évolution des cartes des formations, hein, qui est de la compétence du Conseil régional en lien très très étroit avec l'éducation nationale et donc avec nous, rectorat, ça s'appuie sur des liens étroits avec l'ensemble des branches professionnelles. Généralement, d'une manière ou d'une autre, on est en contact avec soit des grosses entreprises, soit des branches professionnelles pour connaître leurs besoins et adapter l'ouverture des formations. Un bel exemple, ça a été à la rentrée 2014, l'ouverture de formations dans le domaine de l'éolien, parce qu'on sait que c'est un point de développement dans notre région, que de se doter un peu de techniques d'énergie alternative. Donc on a ouvert des formations pour former des jeunes pour la maintenance de l'éolien, par exemple. On ouvre des formations aussi sur tout ce qui est le transport routier, parce qu'on sait qu'il y a une demande forte des entreprises dans ce domaine. Deux exemples.
D'accord. Voilà, en tout cas, merci beaucoup William Marois. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'Académie de Nantes. Alors, c'est les vacances ce soir. C'est les vacances d'hiver pour la zone. Alors, on est en zone B maintenant, c'est ça? On n'est plus en zone A.
Lié au redécoupage des régions, il y a eu une homogénéisation des vacances dans les grandes régions élargies, ce que nous ne sommes pas. Donc ça a conduit à une remise à plat complète de la carte des académies et des vacances. Donc ce soir, les élèves sont en vacances et qu'ils en profitent bien.
Qu'ils en profitent bien. Et on va aussi signaler qu'il y a beaucoup de portes ouvertes qui vont commencer. Il y a eu des salons déjà à Angers, je crois, fin janvier. Il y a des portes ouvertes qui vont s'ouvrir, donc faut pas hésiter. Enfin, là, je parle aux auditeurs, mais vous pouvez aussi le transmettre l'information. Faut pas hésiter aux parents d'aller, s'informer, notamment sur votre site, mais aussi dans les établissements scolaires. Donc il y a aussi les CIO, tout ça. Donc évidemment, nous aussi, radio, nous allons communiquer sur ces portes ouvertes hein, et qui se passent localement, mais plus largement, un peu plus loin, dans les Pays de la Loire. Voilà, les portes ouvertes. Ça va commencer là. Ça va être février. Enfin, après les vacances, je pense que ça va. On va commencer.
Vacances, il va y avoir beaucoup d'opérations portes ouvertes, donc il faut que tout le monde en profite. C'est vraiment un lieu fort pour avoir une vraie information sur les formations et sur les métiers auxquels ils conduisent.
Bien sûr. Merci en tout cas, Monsieur Marois, d'être intervenu sur Fréquencier. Merci.
Et bonnes vacances.
Merci. Au revoir.
Au revoir.